Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio-Télévision Suisse.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Le grand voyage reprend en cette période de plus en plus trouble avec une escale en Côte d'Ivoire grâce à une découverte et à un nouveau prix littéraire. Nous remonterons le temps aussi avec l'incroyable histoire d'un illustre poète et il sera question d'une nuit de couvre-feu dans la capitale française. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Aujourd'hui, Jean Tellet revient avec une biographie romancée de Charles Baudelaire. Il nous raconte toute sa vie avec ses excès en tout genre. Bonjour Jean Tellet.
Bonjour Emmanuel.
Il était pervers, Baudelaire, selon vous?
Ah oui, il était pervers, il était sadique, il était cruel, il était fétichiste, il était dépravé.
Il y a une dérive qui vous a choqué en particulier chez lui?
Sa misogynie, je trouve que c'est un truc idiot.
Ah
je
ne
comprends pas comment un type aussi intelligent, aussi génial, a pu avoir ce travers qui est réservé aux connards.
Carrément. Voilà. Bon, bah écoutez, ça commence bien, Jean. Vous allez avoir une autre image de Charles Baudelaire à la fin de cette émission. Nous irons en Côte d'Ivoire, donc, avec un premier roman signé Yaya Diomandé, qui porte un regard sur l'exil tant désiré d'un jeune Abidjanais. L'auteur a reçu le prix Voix d'Afrique, un nouveau prix littéraire qui révèle de jeunes auteurs africains. Et puis, il sera question d'une bande dessinée avec l'auteur et réalisateur culte de toute une génération. Patrice Lecomte est en plateau avec nous. Il raconte une nuit de couvre-feu, un sujet troublant en cette période marquée justement par les couvre-feux sanitaires. Et vous retrouverez bien sûr nos libraires tout au long de cette émission, des libraires en liaison depuis leur librairie ou dans nos studios francophones. C'est le grand retour de Sophie Todescato pour la France aujourd'hui. Bonjour Sophie.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes en Suisse, vous êtes libraire dans la librairie Une Petite Prose. Josiane Letourneau est libraire, elle, dans la librairie du Square à Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Avec Montréal, toujours aussi en version couvre-feu, hein, les bars, les restaurants et tous les lieux culturels qui sont fermés, toujours?
Oui, toujours, en fait jusqu'au 28 octobre. Et après ça, le gouvernement va aviser.
Voilà, et pour la Belgique, on retrouve Nathalie Clairin, libraire à la Hulpe, dans la librairie de la Mazrine. Bonjour Nathalie.
Bonjour Emmanuel.
On commence avec une petite anecdote de libraire avec vous. C'est la tradition désormais cette saison. Quelle histoire voulez-vous nous raconter, Nathalie?
Ah oui, mais vous savez Emmanuel, en librairie, on voit souvent des parents qui veulent influencer le choix des livres de leurs enfants. Alors je vous raconte, tout récemment, on avait un petit garçon qui tirait sur la manche de sa maman pour acheter la BD intitulée Seul. C'est une BD qui a des personnages un peu funky, j'avoue. Mais la maman n'était pas du tout convaincue. Et puis alors je croise son regard et je lui dis, mais on a toute une pile de cette BD parce qu'elle est prise comme lecture scolaire dans un collège de la région. Et alors là, elle se ravise et elle dit à son petit gamin, oui, prends-la. Donc tout ça pour vous dire, Emmanuel, faisons confiance à nos petits-enfants.
Oui, c'est vrai, c'est ça. Pas de préjugés. Pas de préjugés. Merci d'être avec nous toutes les quatre. Vous interviendrez bien sûr tout au long de cette émission. Baudelaire pour démarrer cette émission avec Jean Tellet. Donc après Verlaine et Rimbaud, vous vous attaquez à une autre grande figure de la poésie, Charles Baudelaire. Dans Crénom Baudelaire, vous racontez toute sa vie en commençant par la fin. À la sortie d'une église de Namur en Belgique, il tombe sur le front.
Il tombe sur le front et en tombant, il dit « crénom ». Comme nous, par exemple, si on faisant tomber un truc, on pourrait dire « oh merde ». Il tombe en disant « crénom », qui est la contraction de « sacré nom de Dieu
».
Et il est resté bloqué sur ce mot pendant plus d'un an. Jusqu'à sa mort, il n'a pas dit un autre mot que « crénom ».
C'est ça.
Et quand on a été l'Everest de la poésie, qu'on a tellement inventé de phrases, d'images et tout, terminer sur un mot aussi con, c'est quand même pas de bol.
Baudelaire, né en 1821, 2021 sera donc l'année du bicentenaire de sa naissance. On a tous soit une passion, soit une curiosité pour Baudelaire. Les Fleurs du Mal nous sont présentées depuis l'école, hein, comme un modèle de la poésie française, un monument, une référence. Sauf qu'à la sortie des Fleurs du Mal, certains poèmes font scandale.
Oui, 13 poèmes sur 100 ont été attaqués en justice. C'est la classe.
Ouais, 6 interdits carrément.
Oui, pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs et pour mise à néant des chères croyances du christianisme. Ceci dit, Baudelaire, il avait un petit peu poussé le bouchon. Par exemple, dans un poème comme Le reniement de Saint-Pierre, ça démarre à peu près comme ça, si j'arrive à le dire de mémoire. Qu'est-ce que fait donc Dieu de ce flot d'anathèmes qui monte tous les jours vers ses chers séraphins? Comme un tyran gorgé de viande et de vin, il s'endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. Et la fin du poème, c'est le dernier vers, c'est Saint-Pierre a renié Jésus, 3 points de suspension, il a bien fait. Et ça, à l'époque de Napoléon III, ça faisait tousser. Et il y a eu 6 poèmes qui ont été interdits, mais interdits jusqu'en 1949. 92 ans d'interdiction.
Je vais vous lire un extrait d'ailleurs d'un de ses poèmes interdits dans un instant. Baudelaire, juste, qui va corriger les épreuves. Ça aussi, drôle. C'est en filigrane dans votre livre. Ces épreuves comme ça pendant des semaines entières à rendre fou un couple d'imprimeurs à Alençon. Ça commence par une erreur sur un mot. Capiteux au lieu de captieux, qui veut dire abusif, fallacieux, je crois. Et puis ça continue par la hauteur de certaines lettres. Et Baudelaire rature, commente, gronde l'éditeur.
Engueule les compositeurs qui étaient en larmes et tout, qui se piquaient des dépressions. Et à un moment, son éditeur, il dit « Bon, mon cher Baudelaire, vous avez entouré ce F. Qu'est-ce qu'il a, ce F ?» Baudelaire a répondu « Il est un peu trop penché. » Il dit « C'est normal qu'il soit penché, c'est un F italique. » Oui, mais il est un peu trop penché. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le redresser un petit peu. Donc, il a fallu qu'il mette des cales et tout. Il a été gonflant. Mais c'est...
L'imprimeur qui dit aussi, oui, bon, mais il y a des façons de le dire. Il raye le mot qui ne convient pas, il écrit le bon dans la marge et puis ça va, j'ai compris. Il n'est pas obligé de m'en coller une tartine ni de saloper le haut de la feuille avec des gribouillis. Lucienne, j'ai l'impression qu'il va nous faire chier, celui-là.
Oui, et c'est ce qu'il aura fait.
C'est ce que vous écrivez, hein, Jean Tollet.
Mais dans sa vie, il a été comme ça avec tout le monde. Il détestait tout le monde, il était pénible avec tout le monde. Mais il se détestait lui aussi. Et c'est en ça qu'il est intéressant, parce que moi, j'ai rencontré plein de gens, sans doute vous aussi, qui disaient « Ah, les gens sont des cons !» et tout. Genre, il n'y a que moi qui ai raison. Tandis que lui, il disait « Mécontent de tous et... » mécontent de moi. Et il a quand même dit aussi, si j'avais un fils qui me ressemble, je le tuerais par horreur de moi-même. Donc, il se mettait vraiment dans le bain, lui aussi. Quoi.
Il y a Patrice Lecomte qui vous regarde attentivement. Bonjour Patrice Lecomte.
Oui, bonjour Emmanuel. Mais j'écoute attentivement. Jean m'a fait l'amitié de m'envoyer ce livre que j'ai lu, que j'ai dévoré, que j'ai aimé passionnément. Et c'est vrai que Jean n'est jamais aussi brillant, talentueux, poétique aussi, que lorsqu'il écrit d'une manière subversive et inattendue la vie qui n'est pas un biopic, la vie de Baudelaire, François Villon, Rimbaud, etc. C'est remarquable, c'est formidable.
Ah, c'est gentil.
Ouais, il a adapté le magasin gentil, des suicides. Ça,
En film d'animation.
Oui, en film d'animation. Bon, Jean Tollet, vous décrivez Baudelaire comme un homme brutal sexuellement. Il va très loin, trop loin.
Oui, une de ses maîtresses dit de lui, avoir une relation intime avec Baudelaire, c'est comme une opération chirurgicale sans anesthésie. Et lui disait, la volupté gît dans la jouissance de faire le mal. Il adorait ça. Et puis, il n'aimait pas les femmes belles. Il préférait les moches et les maigres. Il disait que les femmes maigres étaient plus nues que les autres. Et la première qu'il a rencontrée était une petite prostituée juive qui louchait, qu'on appelait Sarah la louchette. Et il disait qu'il avait voulu d'elle parce qu'elle était comme une ficelle avec des nœuds. Il aimait les femmes différentes. Après, il a vécu avec Jeanne Duval, qui était une très grande femme noire.
Grande histoire
d'amour. Ouais. C'est vraiment du niveau de Roméo et Juliette, c'est ça qui est incroyable.
L'éditeur hallucine avec lui. Il demande aux deux associés Poulet Malassi. Il s'appelait vraiment Poulet Malassi, l'éditeur.
Absolument. Et lui, il a vraiment toujours appelé que Coco Malperché. Et il disait qu'il n'avait pas de bol parce que son premier éditeur, quand il avait fait le compte rendu annuel en 48 du salon de la peinture au Louvre, son premier éditeur s'appelait Jules Labitte. Le deuxième s'appelait Poulet Malassi. Les Fleurs du Mal étaient distribuées par la librairie Connard et Compagnie.
Non, c'est vrai.
Mais oui. Et à son procès, son procureur s'appelait Pinard. Il disait « Je suis maudit !» Et tout est vrai.
Bon, il y a des histoires incroyables. À un moment, Baudelaire donc demande à son éditeur, à ses éditeurs, ils sont deux, il demande de prévoir une édition spéciale avec une couverture en peau de gaupe.
Voilà.
Et alors, la gaupe, c'est...
Une salope.
Non, la prostituée. prostituée, Jean.
Une pute, alors.
Non, mais non. Une heure de grande écoute, Jean. C'est une prostituée. C'est la définition de Gaup à l'époque. C'est un mot ancien. Et il veut, comme ça, avoir de la peau humaine.
Voilà. Et alors, il avait il se demandait laquelle. Il disait, si c'est la peau du dos, c'est peut-être mieux pour faire une couverture parce que c'est plus épais. Quoique ça soit peut-être trop fin, si c'est la peau des seins, ça pourrait être pas mal parce que le mamelon tanné, ça ferait comme un médaillon central au milieu de la couverture.
Il dit, ce serait plus joli.
Ce serait, voilà. Et son éditeur, lui avait dit, phrase formidable, il avait dit, mon cher Baudelaire, il y a des moments où je doute de votre état mental. Il y en a d'autres où je n'en doute plus.
C'est la plupart du temps.
Voilà.
Allez, on va voir les libraires. Jean Tellet, sur la musique de Berlioz, tiens.
Ah.
Écoutons la musique de Berlioz, qui était proche de Baudelaire.
Et oui, il l'a bien connue.
Il assiste à son enterrement même.
Ouais, absolument.
Et on est dans l'ambiance, là, de l'époque de Baudelaire.
Ouais.
Et on commence par la Belgique, tiens, avec Nathalie Clairin. Nathalie, c'est à vous.
Oui, Emmanuel. Eh bien, écoutez, moi, je me suis vraiment régalée en lisant ce livre. Tout d'abord, la langue. La langue est belle, elle est délicieusement soignée. Et ce qui est brillant, c'est le ton que Jean Tellet a, parfois hussard, cavalier, mais toujours amusé. Vous excellez à parler de cet éternel adolescent blasé et rageur. Vous avez à la fois une compassion et une fascination pour lui et ses fleurs du mal, et c'est tout à fait contagieux. Excellente idée aussi d'intégrer si naturellement beaucoup de poèmes dans votre récit. Bref, Jean Tellet, je ne vous lancerai que des fleurs, et cette fois-ci, ce sont des fleurs du bien.
Oh, c'est adorable.
Et le Canada, tiens, avec Josiane Nétourneau. Que pensez-vous de cette biographie tellésienne, Josiane?
Eh bien, moi aussi, M. Tellet, je n'ai que du bien, dis-je, à dire de votre livre. Il y a longtemps qu'un roman ne m'avait pas fait passer par autant de niveaux de rire. Quel personnage extraordinaire que Charles Baudelaire, tel que vous nous le racontez. J'ai d'ailleurs eu l'impression qu'absolument tout dans ce livre, le ton, l'écriture, la forme, était parfaitement né de l'esprit de cette personnalité irrésistiblement exaspérante. Pour moi, c'est une réussite de bout en bout. J'ai adoré.
Oh, bah.
Parfait. On va arrêter Berlioz, par contre, parce que ça commence à aller. Et on va partir en Suisse avec Dominique Bressou, qui est fan de Baudelaire, je crois, Dominique.
Oui. Mais Jean Tellet, alors votre livre m'a laissé une drôle d'impression. Ce parcours hallucinant et halluciné que vous nous offrez, c'est parfois plus glaçant qu'un thriller, et pourtant, on a vraiment envie de rire à certains passages. Mais pour moi, la grande qualité de cet ouvrage est qu'on comprend le lien entre la vie et les œuvres de Baudelaire. Et je me suis demandé si les professeurs qui commandent actuellement les fleurs du mal pour leur classe encourageront la lecture de cette biographie époustouflante à leurs élèves.
Ouais, c'est pas dit, hein, parce que vous nous dégoûtez un peu de Baudelaire parfois, Jean.
Mais il était comme ça, et il y a une des libraires qui a parlé d'adolescence. Une des caractéristiques quand même de Baudelaire, c'est que c'est un type qui est mort à 46 ans et qui n'a été adulte dans sa vie que un an et demi.
Oui, oui.
Puisque à 21 ans, il a touché l'héritage de son père qui était de 100 000 francs or, ce qui correspond à maintenant à 5-6 millions d'euros.
En 500 000 euros à peu près.
Ah bon?
Oui, on a regardé, c'est à peu près 500 000 euros.
Et en un an et demi, il en a dépensé la moitié, claquait son fric, et sa famille, son beau-père et sa mère, par décision de justice, l'ont mis sous curatelle, et il est redevenu mineur. Quoi.
Alors il y a des poèmes qui ont été interdits, on en parlait tout à l'heure, en voici un extrait. « Ainsi je voudrais une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme un lâche rampé sans bruit. » Pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse. Et, vertigineuse douceur, à travers ces lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma sœur. alors.
Ouais, c'est formidable ce truc. Et ça, c'est effectivement, il s'appelle À celle qui est trop gay. Et ce poème fait partie de ceux qui ont été interdits lecture pendant 92 ans.
Alors, obsédé par le sexe, Charles Baudelaire, dès l'âge de 5 ans même, vous le dites, il est amoureux de sa mère. Et ça semble aller très loin, ça.
Mais oui, un amour dingue. Dès que sa mère quittait la maison, lui, il était tellement en manque comme d'une drogue qu'il ouvrait le panier en osier dans la lingerie et plongeait sa tête dedans pour respirer le linge sale, les culottes sales de sa mère. Et alors, quand sa mère, tout de suite après son père est mort, et puis sa mère s'est remariée 19 mois après, ça a été, il a toujours dit ça, le remariage de ma mère a été ma blessure fondamentale.
C'est terrible.
Et du jour au lendemain, les femmes, pour lui, n'étaient plus rien. Et il avait aussi dit, depuis la première qui m'a trahi lors de ma prime enfance, j'ai dorénavant d'odieux stéréotypes à l'égard des femmes. En un mot, je ne leur fais plus aucune confiance. Et d'ailleurs, parmi ses amoureuses, la première lui a collé la bléno, la deuxième lui a collé la syphilis. C'est pas ça qui l'a fait changer d'avis.
Hein. Ouais, non, c'est ça. Il est malade, en fait. Il est malade toute sa vie de la syphilis. À l'époque, on la soigne pas comme aujourd'hui. Et il se drogue, du coup, avec de l'opium.
Voilà.
Des gouttes d'opium. Ah, on lui dit d'en prendre 7, 10 grammes maximum. Voilà. Il en prend
1600 par jour.
Par jour?
Oui, par jour.
Ah oui.
Et il prenait aussi de la confiture verte qui était du hashish, l'équivalent d'une barrette de shit à jeun dans le thé du matin. Il y a de quoi écrire des poèmes à la con. Hein,
bon, avant tout cela, en tout cas, il est provocateur, il est insupportable.
Ouais.
Et son beau-père lui dit, tu vas faire une grande balade en mer. Et donc, il l'envoie sur un bateau pendant plusieurs mois. Il lui dit, tu vas aller vers Calcutta.
En Inde, ouais, voilà.
Et il s'arrête à l'île Maurice.
Ouais.
Alors là, c'est incroyable parce que le capitaine du bateau n'en peut plus. Baudelaire se plaint parce qu'il n'a pas de livre avec lui. Ouais. Donc, il va dans une librairie sur l'île Maurice.
Non, à La Réunion.
À La Réunion, juste à côté, lors d'une escale.
Ouais.
Et à ce moment-là, il n'a pas d'argent. Donc, il propose au libraire réunionnais de payer avec ses vêtements, je cite, de Parisien.
Voilà. Et il est revenu sur le port, sur le quai, pour reprendre le bateau à poil, mais avec son chapeau haute forme. Il était timbré.
Victor Hugo l'adorait, en tout cas.
Oui, et lui détestait Hugo, mais Victor Hugo a dit des belles choses sur elle. Vos fleurs du mal brillent comme des étoiles. Vous apportez dans l'art un frisson nouveau. Et c'est super beau.
Il demande à entrer à l'Académie française.
Oh là là, ça s'est super mal passé.
Et on lui demande qu'est-ce qu'il pense de Victor Hugo, et il répondra, moi je me fous du genre humain de toute façon.
Oui, mais exactement, parce qu'à un moment il a raconté ça à Nadar, il dit, Hugo m'a envoyé son dernier livre, qu'il m'a dédicacé, Jungamus Dextras. Ça ne veut pas dire simplement serrons-nous la main, je connais les sous-entendus d'Hugo en latin, ça veut dire, joignons nos mains pour sauver le genre humain. Or moi, il se trouve que je me fous du genre humain. Voilà.
Bon voilà, Charles Baudelaire qui va rester aussi 2 ans à Bruxelles et il va insulter les Belges lors d'une soirée mémorable. Pour en savoir plus, il faut lire votre livre ou regarder la prochaine édition de la librairie francophone version télé puisque nous parlerons justement de ce moment à Bruxelles et vous serez l'invité de cette émission diffusée fin octobre, début novembre. Voilà, vous restez avec nous en attendant avec ami Patrice Lecomte.
Bien sûr.
Merci beaucoup Jean Tellet. Crénom Baudelaire, c'est aux éditions Mia Les Barreaux. Nouvelle maison d'édition d'ailleurs.
Ouais.
Merci Jean. À suivre, une découverte littéraire ivoirienne avec Yaya Diomandé qui a reçu le prix Voix d'Afrique parrainé par Abdourahmane Ouaberi qui sera en liaison avec nous. Ce sera après la chanteuse capverdienne Elida Almeida. Merci à vous d'écouter la librairie francophone. Riba tada grecha panu va pasia sabinka tengaru pan pasia magunya burunta leva di porto nu santiago panu va casa oi ai ai mina saputa ya coristango nanana coristango oi ai ai mina saputa ya coristango nanana coristango Chomau, ukaguri, pamo, pamo, kuwa tarisangu, wa minina wa kunita.
simubira pombanda vasimbi punta pega wavinina vashareta jakuvoka kraubustalu stringi mapapya kumi oiyaye mina sakuta ya
C'était Elida Almeida dans la librairie francophone avec Yaya.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour Yaya Diomandé.
Bonjour Emmanuel.
La chanteuse capverdienne ne chante pas votre prénom, mais ça pourrait.
Ah,
c'est
oui,
le même titre que vous, que votre prénom. Voilà, c'est un hasard total de la programmation. Bon, merci d'être avec nous. Vous êtes le lauréat du prix Voix d'Afrique, nouveau prix littéraire initié par les éditions Jean-Claude Lattès et RFI. RFI que l'on salue au passage, radio qui diffuse d'ailleurs la librairie francophone estivale l'été. On va rejoindre tout de suite Abdourahmane Ouaberi, le président du jury de cette première édition du prix, qui est en liaison avec nous. C'est une surprise pour vous, Yaya.
Ah oui, vraiment.
Bonjour Abdourahmane.
Bonjour Emmanuel, et bonjour Yaya.
Ah bonjour Abdourahmane.
Vous êtes en liaison avec nous depuis Milan, paraît-il. Vous êtes à Milan en Italie, Abdourahmane Ouaberi. Quelle est l'ambiance en Italie en ce moment ?
En tout cas à Milan, il ne fait pas très beau, il fait un temps de Bretagne.
Il fait un temps de Bretagne, bon. Et la crise sanitaire est passée par là en plus.
Oui, mais pas plus qu'ailleurs d'ailleurs, en fait.
Bon, merci en tout cas d'être là. Comment est organisé le prix Voix d'Afrique ? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Ce sont de jeunes auteurs qui sont primés, qui n'ont jamais été publiés.
Vous savez, il y a beaucoup de prix, mais celui-ci a cette magie d'être destiné aux jeunes écrivains africains, enfin francophones, pardon. Et donc, ils nous envoient leurs manuscrits par une plateforme électronique. Et nous avons reçu plus de 300, je crois, la dernière édition, et nous en avions retenu une quinzaine, et après 5, et après un dernier roman, celui de Yaya Diomandé, qui est avec nous.
Voilà, un prix qui est décerné sur manuscrit aux jeunes de moins de 30 ans, récompensé donc par une publication chez Jean-Claude Lattès, avec une coédition dans le pays natal du lauréat. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman à Bobo Marley, signé Yaya Diomandé ?
Avec au plus une résidence à Paris par la Cité internationale des arts. Donc ça fait beaucoup de cadeaux. Qu'est-ce qui vous a plu ? Moi, ce qui m'a plu, c'est la langue. C'est un des romans les plus audacieux. Son narrateur, Moussa, traversait la Côte d'Ivoire, mais aussi le désert, l'Afrique et l'Europe. Et puis le retour, enfin, je dis pas tout, mais enfin, il y avait un roman picaresque dans son mouvement. Il y avait une audace chez les personnages, et il y avait une langue très particulière qui est ce français d'Abidjan, travaillé par le Luchi, qui est une espèce de langue créole que les Ivoiriens ont inventée. Donc il y avait tout ça. Il y avait une langue, il y avait un topos, il y avait un personnage, il y a une histoire.
Parfait. Bon voilà. Yaya Diomandé, vous voulez dire un mot à Abdourahmane Ouaberi ?
Bah, simplement merci.
Simplement merci.
Bah, venant d'un grand comme lui, c'est merci, c'est à saluer, c'est tout. Merci.
Merci beaucoup, Abdourahmane Ouaberi, d'être intervenu dans la librairie francophone.
Bah, je suis chez vous, en ami. Merci à vous.
C'est vrai.
À la prochaine.
C'est vrai que vous êtes chez vous ici. Merci à vous. Bonne journée à Milan. Alors, Yaya Diomandé, votre personnage, Kone Moussa, est un jeune qui rêve d'Europe. C'est un résilient, un idéaliste, et il est capable de tout pour arriver à ses fins. Qu'est-ce qu'il veut par-dessus tout, ce personnage?
Moussa, qui est le personnage principal de l'œuvre, alias Moses,
oui,
de Bengue ou Moses le Benguis, vit à Abomali, qui est l'un des quartiers les plus, on va dire, dangereux d'Abidjan, parce que c'est un quartier de la commune d'Abobo, qui est la commune la moins sécurisée et la plus peuplée. Dans cette commune, la précarité est le bien le mieux partagé. Alors, dans cette précarité, Moussa voit que sa mère, qui n'est pas trop aimée par son père, n'est pas à l'abri du besoin. Alors, il s'est dit qu'il doit se battre pour aider sa mère.
Pour aider sa famille, oui.
Bon, sa famille surtout, oui, son frère, ses cadets et autres.
Sa sœur aussi.
Voilà, sa sœur, pourquoi pas, alors sa famille. Et il s'est dit qu'il n'y a pas de perspective au pays. Il n'y a pas de chance pour lui en Côte d'Ivoire.
Donc il veut partir.
Il a abandonné les études, alors il faut partir. Et alors, où partir? Partir en Europe.
Alors c'est ça, oui. Et pourtant, on l'alerte. On lui dit que c'est un Eldorado, finalement, pas si idéal que ça. Tout le monde lui dit. Tout le monde lui dit, de toute façon, si tu veux partir en Occident ou en Europe, fais-le par la voie légale. Ne passe pas par ce que l'on appelle les passeurs. Et lui, il ne va écouter personne. Il va essayer déjà par un bateau.
Effectivement.
Un bateau de marchandises qui part, il va se cacher dans le bateau.
Tout à
fait. Ça ne marche pas.
Tout à fait. En fait, Moussa s'est dit que toutes les voies sont bonnes pour aller en Europe. Il a déjà essayé par un bateau et l'aventure a échoué et il s'est retrouvé en prison. Après cela, il a été rebelle, chef de gang. Il a essayé à plusieurs reprises de partir par la voie légale et il a été dupé par des escrocs qui lui ont fait des faux visas et autres.
Donc il passe du bon côté de la barrière au mauvais côté de la barrière très vite.
Tout à fait.
Il va sombrer dans la violence. Ça va très vite, hein, parce que vous avez un style comme ça, épuré, assez simple finalement, qui raconte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et il lui arrive plein de choses, c'est l'essoreuse en fait ce personnage. On a l'impression qu'il n'a pas de limite.
Ah oui, ben, lorsqu'on a le dos au mur, on s'est dit, mais on n'a pas le choix, il faut foncer. Et Moussa est dans ce cas-là en fait, il s'est dit, bah, j'ai pas le choix, je dois aller devant. Alors, face à toute épreuve, il s'est dit, ben non, il faut continuer. Et Moussa, alors, il est dans cette logique, en fait, de continuer à tout moment.
Ouais. Vous avez raconté dans la presse française avoir écrit ce roman alors que vous faisiez de petits boulots sur le port d'Abidjan. Yaya Diomandé, c'est vrai ça?
Oui, surtout à la zone industrielle de Yopougon, voilà, où j'étais ouvrier.
Pourtant, vous êtes multidiplômé.
Bah oui.
Vous êtes diplômé en transport logistique, en finance, en comptabilité, avec une maîtrise en droit privé.
Droit privé, tout à fait.
Et vous n'avez jamais trouvé de boulot?
Non, j'ai pas eu de boulot, des bouts de boulot de part et d'autre. Et moi, j'étais traducteur freelance, puisque je suis polyglotte. Je parle anglais, espagnol, arabe, avec un peu d'allemand quand même. Alors, bah.
Ça va alors.
Voilà. moi, j'écrivais le roman, j'avais encore le BTS en transport logistique.
Ouais.
Sans job, j'étais manutentionnaire. On chargeait des camions avec des aliments de bétail.
Donc, un peu comme votre personnage, en fait.
Bah.
Lui est tireur de chaussures, mais voilà, lui, il est sur le port, lui aussi.
Voilà, lui, c'est ça, c'est ça.
Ouais.
Bah, c'est ce qu'on faisait, en fait, pour se défendre à Abidjan. Pour s'en sortir, en fait, financièrement.
Et vous avez écrit comme ça?
Ah oui, je l'écrivais le roman avec mon téléphone portable. Ce n'était pas un portable 3G, c'était encore le petit portable en 2011, voilà. Alors, entre deux chargements, j'avais une petite pause, je prenais mon portable, j'écrivais mon histoire progressivement. Et une fois chez moi à la maison, je le mettais au propre dans mon cahier. Je l'ai fait de 2011 à 2015, quand j'ai fini le roman.
Ah oui, quand même, 4 ans.
Ah oui, 4 ans, c'est ça.
4 ans. Bon, bravo, en tout cas, hier. Bravo. On va voir du côté de nos libraires ce qu'ils ont pensé de votre livre à travers la francophonie, avec la France, la Suisse et la Belgique. Vous voulez commencer par qui?
La Suisse, pourquoi pas?
La Suisse, allez, allons-y, avec Dominique Bressoux.
Alors, l'épopée de Moses, elle retentit vraiment comme un long cri d'angoisse. C'est une narration brute, avec et sans eux. La violence psychologique et physique que les personnages subissent ou font subir continuellement, ça donne l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'espoir pour eux, que le pire est inéluctable et que leur vie ne s'améliorera que le temps de souffler pour subir de nouvelles épreuves, toujours plus traumatisante. Pour moi, c'est un livre que tous les Européens devraient lire, juste pour essayer de comprendre au lieu de juger.
Bien. Ça vous va, Yaya?
Ça me va très bien. En fait, cela justifie, je peux parler?
Oui, bien sûr.
Cela justifie, en fait, le fait souvent qu'on voit des jeunes Africains ici à Château d'Eau, qui sont là sans emploi, sans
à Paris,
et qui ne veulent pas partir, en fait. Souvent, les Européens ne comprennent pas. Ils sont là sans emploi, ils sont là toujours à traîner à Paris ici. Et ils savent pourquoi? Parce que de là d'où ils viennent, vraiment, c'est pas vraiment reluisant.
Allez, la Belgique avec Nathalie Clairin.
Oui, pareil pour moi, votre ouvrage m'a autant touché qu'intéressé. D'abord, je le trouve nécessaire pour clamer la fierté de tous ceux qui ont tout bravé pour leur Eldorado. Et aussi pour clamer la dignité, parce que le livre rappelle bien comment le pays quitté reste le pays de cœur, même si les politiques y sont tout à fait abjectes. J'ai trouvé que votre livre, par son foisonnement de détails, nous ancrait très bien dans la réalité, aux côtés d'un héros qui devient proche comme si on l'avait rencontré. Donc vraiment, c'est un roman témoignage des plus réussis.
Parfait, c'est bien pour vous. On va voir si vous faites l'unanimité avec Sophie Todescato qui est en France, à Orléans. Sophie.
Oui, moi ce que j'ai trouvé intéressant, c'est le personnage de Moussa, ce personnage contrasté qui fait systématiquement les mauvais choix, mais toujours pour de très généreuses raisons. Et ce ressort-là, en fait, ça donne beaucoup de force au récit et ça fait oublier les quelques toutes petites maladresses dans le style, les petites timidités qui sont aussi la marque des premiers romans, c'est normal.
Et oui, c'est un premier roman, rappelons-le. Yaya Diomandé, vous décrivez votre pays, la Côte d'Ivoire, comme un pays où les ambitions ne sont pas envisageables. Il y a trop d'instabilité politique, trop de corruption, trop de déséquilibre, tout simplement.
C'est ça. Il dit souvent, il dit, après 60 ans d'indépendance sur moi, il n'y a pas d'équilibre de chance. Alors, ceux qui vont à l'école n'ont pas la chance. On nous dit que le système nous dit qu'il faut aller à l'école, il faut aller apprendre et espérer avoir un job, soit à la fonction publique, au privé ou entreprendre, mais que ce soit la fonction publique, les concours déjà ne sont pas ouverts à tous, les gens sont admis par affinité, le privé il faut être recommandé pour avoir un job, ceux aussi qui veulent entreprendre sont sous la pression fiscale, et vers la fin, on craque. Vous voyez, encore, ceux qui ne sont pas encore diplômés comme Moussa dans le roman, franchement, il n'y a rien à espérer en fait pour eux.
Il n'y a pas d'espoir.
Voilà, pas d'espoir.
Et pourtant, le message de votre livre, Yaya, c'est de dire il faut se former en Afrique, il faut se former en Côte d'Ivoire pour enrichir ensuite son pays de ses compétences. C'est ça votre message. Vous dites aussi que cet Occident, l'Eldorado, c'est la misère assurée.
En fait, moi je veux dire que, qu'on le veuille ou pas, qu'on n'ait pas de chance au pays ou pas, notre terre reste notre terre. Je suis en Europe pour une résidence. 8 degrés, c'est trop pour moi. La température, déjà, je ne supporte pas, en fait. Alors, j'imagine pas résider en Europe toute ma vie, en fait. C'est impossible pour moi. Si je devais être ici. Alors,
vous n'avez pas eu la tentation de partir comme votre personnage en clandestin?
Non. Si je dois venir en Europe, ce serait sûrement pour faire des études.
Oui.
Voilà, une thèse, pourquoi pas.
Mais pas avec un passeur comme lui, il va le faire à un moment.
Je ne le ferai jamais.
Bien sûr.
La première fois que je suis venu en Europe, c'est cette fois, et je suis venu en avion avec un visa normal.
Honorablement, quoi.
Ah oui.
Oui, bien sûr.
Alors, je me dis qu'on doit forcément se battre, certes, soit au pays ou hors du pays, afin de venir construire notre Côte d'Ivoire, non. Et l'Afrique, en fait, c'est ça.
Vous parlez du pays des droits de l'ombre, au lieu du pays des droits de l'homme.
Oui.
Le pays des droits de l'ombre.
Je parle là de ces Noirs, quand même, nos frères africains qui fuient la misère, et qui viennent ici en Europe pour se mettre à l'abri en fait, du besoin, à l'abri de la famine, des guerres et autres, qui parfois n'arrivent pas à s'insérer, n'arrivent pas à avoir leur pain, n'arrivent pas à réaliser leur rêve de l'Eldorado qu'ils avaient. Et là, franchement, se voir dans de telles conditions, alors que ces pays-là, quand même, ce sont des pays qui font rêver avec tout ce qu'ils ont comme institutions et autres, ça touche un peu quand même.
Voilà ce livre « Abobo Marley » signé Yaya Diomandé. Je peux vous dire que Jean Tellet et Patrice Lecomte sont captivés par ce que vous dites.
Ah, j'espère.
Et je suis sûr qu'ils vont lire votre livre, hein, Jean Tellet.
Bien sûr que oui.
Quasiment sûr.
Ouais. Bon. Et vous habitez toujours à Abidjan là alors?
Je suis à Abidjan au quartier Marley.
Ah, vous êtes toujours là-bas?
Je suis dans le quartier.
Mais vous faites quoi là-bas alors?
Je suis chômeur, puis j'ai un petit journal que j'ai créé en ligne qui traite de business, c'est ce que j'essaie de gérer.
Et là, il est en résidence littéraire, hein, c'est ça?
Tout à fait,
en
ce moment. À la Cité internationale des arts de Paris.
À Paris. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès et c'est le prix Voix d'Afrique 2020, prix parrainé par nos amis de RFI notamment. Enfin, pas notamment, tout court. Merci beaucoup. Merci Yaya Diomandé.
Merci Emmanuel.
Merci à vous. Dans un instant, Patrice Lecomte pour une bande dessinée dont l'action se déroule une nuit de couvre-feu. Tiens, une nuit de couvre-feu. Ce sera après Voyou dans la librairie francophone.
Tu n'étais pas comme je croyais. J'étais un peu jeune et aveugle. Je n'avais pas les clés. Tu étais de toutes mes pensées. Je ne parlais plus que de toi. Et m'agaçais quand tu ne répondais pas. Et les autres me répétaient de trouver quelqu'un d'autre, d'arrêter de te celles qui s'en fichaient de moi. Oui, les autres me répétaient de trouver quelqu'un d'autre, d'arrêter de tomber. Pour celles qui s'en fichaient de moi, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive et les gens qui nous aiment on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive et les gens qui nous aiment on les méprise. J'ai tout un tas de choses en tête, peut-être était-il insensé de penser t'aimer pour de vrai. J'aimerais pouvoir enfin grandir avant de laisser quelqu'un m'aimer, apprendre un peu plus à me cerner. Et ma mère me demandait si en regardant le futur je voyais vraiment cette fille-là dont je disais être amoureux. Et toujours elle demandait si en regardant le futur je voyais vraiment cette fille-là dont je disais être amoureux. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive et les gens qui nous aiment on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive et les gens qui nous aiment on les méprise. Dans les cases, pas besoin de courir, pas besoin de souffrir. La route est si longue et pleine de surprises. Tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive et les gens qui nous aiment on les méprise. Oh, tout le monde cherche ces idylles de jeunesse, surtout celles dont on nous prive. Les gens qui nous aiment, on les méprise.
C'était Voyou avec Teenage Fantasy.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Et rebonjour Patrice Lecomte.
Rebonjour Emmanuel.
Vous publiez avec Jérôme Tonnerre et Alexandre Coutelis une bande dessinée en deux tomes, Deux passantes dans la nuit, BD qui se déroule une nuit en plein couvre-feu pendant la guerre. Une nuit en plein couvre-feu, forcément en ce moment, en pleine période Covid, ça résonne en France et en Belgique notamment.
Oui, mais ça prouve simplement que l'histoire bégaye.
Oui.
Et se répète en permanence. C'est des couvre-feux, on pensait qu'on n'en aurait plus jamais.
Oui.
Et puis pas de bol.
Ça vous gêne ce terme couvre-feu instauré aujourd'hui même dans une partie de la France ?
Tant qu'à faire, autant être tous de bons élèves et de faire ce qu'on nous dit de faire. Si ça peut éviter des catastrophes virales et tout, allons-y. Franchement, parce que si on met tout en cause en disant ça marche pas, mais pourquoi ils font ça, c'est incohérent, alors on va plus jamais s'en sortir. Donc je préfère, me comporter en bon citoyen et bon élève. Mais c'est le terme couvre-feu, moi, qui me fait flipper. En fait.
Oui, c'est ça. Non, c'était la question.
Le terme, l'action, les répercussions.
Je vous parlais du terme, oui.
Mais le terme lui-même, il me fait flipper gravement, quoi. Mais je sais pas pourquoi. Parce que ça me renvoie à une époque révolue, passée. On pensait que c'était fini. Ben non, tout compte fait, non. Il y a le couvre-feu.
Alors, c'est vrai que vos deux femmes se retrouvent une nuit dans Paris occupé. C'est une fuite, un jeu de cache-cache, une échappée poétique aussi, une transgression.
Un peu, oui, aussi, parce que elles ont pas le droit de se balader. Alors, il y en a une des deux. C'est toujours amusant dans les histoires qu'on raconte de faire se rencontrer des extrêmes, enfin, des gens que tout oppose. Parce que si c'est pour que ces deux femmes soient l'une le calque de l'autre, c'est pas très intéressant. Alors, il y en a une qui sort de prison. Donc elle est libre dans un Paris occupé, avec une petite robe d'été parce qu'elle s'est fait choper un soir de bal du 14 juillet. Et puis il y a l'autre qui est une pessimiste, qui craint tout, qui a peur de tout, du moindre carrefour, du moindre angle de rue. Donc d'avoir une Titi Parigote et une inquiète, c'est intéressant. Ça fertilise l'imagination joliment, je trouve.
Alors on est pendant la guerre. Le contexte n'avait bien sûr rien à voir avec aujourd'hui. Il y avait des bars et des restaurants clandestins qui ouvraient discrètement la nuit. Et il fallait échapper à la Gestapo et aux collabos et pas protéger sa santé. Donc tout était autorisé. Et au contraire, à cette époque-là, pendant les couvre-feux, on survivait, on résistait grâce au contact avec les autres. Et on le voit dans votre bande dessinée, ça.
Ce qui nous a amusé beaucoup, intéressé, captivé, quand on a écrit cette histoire avec Jérôme Tonnerre. Jérôme Tonnerre, avec qui j'ai écrit plusieurs scénarios de films. Jérôme Tonnerre connaît bien cette période de Paris occupé, ça le passionne, ce que je peux comprendre, donc il m'a transmis cette passion-là. Et ce qui nous plaisait beaucoup, c'était d'imaginer un temps limité, donc une nuit en effet, dans Paris occupé. Mais ce qui nous intéressait, c'était de ne pas truffer notre scénario, notre histoire, et donc les cases de la bande dessinée avec des reconstitutions, des voitures d'époque.
Ça vous plaît pas, ça?
Des bottes, des manteaux de cuir, des casques à pointe. C'était pas notre truc. On avait envie d'être, pardon, c'est un peu prétentieux, puis le mot est peut-être galvaudé, mais on avait envie d'être plus poétique, plus stylisé, en tout cas.
En tout cas, c'est entre ombre et lumière. D'ailleurs, c'est très bien mis en scène par le dessin, avec ce jeu de couleurs et ce jeu d'ombre en permanence. Patrice Lecomte, qui fait une bande dessinée, ça va surprendre une partie des auditeurs, mais vous avez commencé par la BD, Patrice, chez Pilote. Pendant 5 ans.
J'ai vécu de la bande dessinée pendant 5 ans. Moi, mon idée, mon envie, ça a toujours été de faire des films.
Oui, vous faisiez ça en attendant, quoi.
Ça a été une parenthèse assez enchantée, et j'ai fait ça en attendant, Et je m'étais toujours dit, le jour où je tourne mon premier long métrage, j'arrête de dessiner, ce que j'ai fait.
Avec Les WC étaient fermés de l'intérieur, avec Coluche, un échec monumental à sa sortie, devenu culte depuis.
Monumental, non, pas monumental.
Oui, c'est vrai, c'est un peu violent, pardon.
Moi, je dirais juste un échec.
Oui, c'est ça.
On m'avait jamais dit monumental. Mais peut-être que
pas.
Vous avez raison.
On n'ose pas. Ils ont raison de pas oser, d'ailleurs, parce qu'avec tout ce que vous avez fait derrière. En tout cas, c'était un film inspiré par les personnages de Gottlieb.
Oui, exact.
Gottlieb, qui était un ami de l'émission de la librairie francophone, qu'on regrette tellement, qui nous manque tellement. Il avait participé au scénario, donc on était déjà encore dans la BD.
Oui. On l'avait écrit ensemble, donc ça, la collaboration avec Gottlieb, qui était un type, j'adorais travailler avec lui, c'était vraiment un ami proche, intéressant, drôle, migraineux aussi, mais quand on écrivait Les WC de fermer l'intérieur, c'était la passation de pouvoir, c'était le maillon idéal entre mes 5 années de bande dessinée à Pilote et mes débuts au cinéma. Oui.
Mais quand on regarde Les Bronzés, votre deuxième film pour le coup, ça fait BD aussi quand on y pense.
Vous dites pas un succès monumental.
Ce succès considérable.
Ah, considérable, mais monumental, c'est bon aussi.
Incroyable, dans l'univers.
Et que c'était assez BD.
Les deux.
Assez BD. En tout cas, c'était assez poilant. Et
les trois même.
Mais c'était surtout très très café-théâtre. Mais le café-théâtre, le Splendide, le vrai chic parisien, le Café de la Gare et tout ça, c'était des gens qui étaient nourris de bande dessinée. Donc il y a une filiation, forcément.
Allez, on va voir les libraires. Il y a le Canada et la France qui ont lu votre bande dessinée majestueuse, fantastique, bande dessinée de Patrice Lecomte. Allons-y au Canada. Josiane Nétourneau, avez-vous adoré cet ouvrage sublime?
Ben, j'ai bien aimé. C'est une BD au style très classique, je dois dire, mais nettement cinématographique. J'ai été frappée par l'importance narrative que prend le langage visuel, qui me semble aussi grande que le texte, qui la rend extrêmement vivante. Par contre, j'ai eu l'impression de rester un peu en surface par rapport au personnage, comme si les dialogues ne sortaient pas vraiment des zones de confort. Mais côté intrigue, c'est réussi. Je suis plutôt curieuse de connaître la suite.
Mais c'est vrai qu'on a envie d'avoir la suite. C'est en 2 tomes. Il sort quand, le deuxième?
Alors, Alexandre Koutlis, le dessinateur, moi, j'ai terminé mon travail avec Jérôme Tonnerre, mais Alexandre Koutlis est en train de terminer le dessin du deuxième tome. Après, il faudra qu'il fasse les couleurs. Enfin bon, c'est tout un bins.
Bon, qu'il se dépêche, quoi.
Donc, il faut qu'il se dépêche. Et donc, le deuxième tome sort au début de l'année, je crois.
D'accord, oui, ça va. Pro quoi, 2021?
Oui.
Oui, ça va. La France, Sophie Todescato, vous êtes fan de Patrice Lecomte?
Mais absolument, absolument, considérablement. J'ai trouvé que c'était une vraie BD d'atmosphère, une vraie bonne BD d'atmosphère où les dessins font de Paris non pas seulement un décor, mais vraiment un personnage à part entière, comme dans un film noir ou dans un roman noir où les zones d'ombre créent de la tension. Et du coup, je trouve qu'on est un peu frustré que la fin n'en soit pas vraiment une et qu'elle nous oblige à attendre ce fameux tome 2.
Je suis désolé, j'ai appris un truc qui m'amuse pas mal, c'est que puisque cette bande dessinée est en 2 tomes pour être complète, et puis ça se terminera, j'ai appris qu'il y avait des jeunes gens, ou pas des jeunes gens d'ailleurs, qui achetaient le tome 1 et qui ne l'ouvraient pas.
Eh ben oui, c'est ça. et qu'attendaient l'autre.
Ils le mettaient sous leur lit ou je sais pas quoi, ils attendaient l'autre pour lire tout d'un coup. Ouais. Je trouve ça pas mal.
C'est pas si mal, ouais. Ce qui vous ennuie, Patrice Lecomte, dans une bande dessinée, c'est son côté statique. Mais en revanche, comme pour les romans que vous avez écrits, tout est possible. C'est la liberté totale. Alors qu'au cinéma, on calcule combien la scène imaginée va coûter. Ça change tout, ça.
C'est vrai et c'est tellement vrai que lorsqu'on a commencé à inventer, à imaginer, à rêvasser autour de cette histoire avec Jérôme Tonnerre, on pensait spontanément, parce que c'est notre formation et notre monde, on pensait faire un film. Et puis très vite, j'ai dit à Jérôme, au bout de quelques séances de travail, j'ai dit à Jérôme, on va dans le mur, on pourra jamais faire produire ça, personne va nous suivre, ça va coûter trop cher, tourner à Paris, c'est compliqué, ça va être une tannée, quoi, une usine à gaz. Et j'ai dit à Jérôme, plutôt que d'abandonner cette histoire, parce qu'on aimait cette histoire et ces deux personnages, de femmes, j'ai dit, mais faisons une bande dessiner. Et c'est vrai que là, pour le coup, ça nous a donné une espèce de liberté, de légèreté, malgré l'époque et malgré ce qu'on raconte. Parce qu'en bande dessinée, comme en roman, comme en film d'animation d'ailleurs, on peut inventer plein de trucs quoi, qui nous seraient interdits parce que trop cher au cinéma.
Vivre libre, c'est cela aussi la préoccupation des personnages de cette époque. Et pour cela, certains se compromettent, comme l'ex-fiancé d'Arlette. Lui, il va aller très loin, il va côtoyer un peu les nazis. Alors, on n'en sait pas trop, parce que ça s'arrête quasiment après ça. Mais il y a des compromissions. La liberté, ça entraîne quoi, Patrice Lecomte ?
C'est-à-dire qu'à cette époque-là, comme à toutes les époques, hein, on me dirait, mais il y avait forcément des crevures, hein, c'est sûr. Mais des crevures qui faisaient de leur mieux ou de leur pire pour subsister, surnager, malgré l'époque, donc compromission, etc. Et je pense sincèrement que ça devait pas être si facile que ça d'être clean, parce que l'époque était très dure, parce que c'était difficile de survivre, de surnager, et que quelques compromissions n'étaient pas forcément, enfin, pouvaient être tentantes. Donc il s'agit pas d'absoudre les gens qui sont comportés comme des salauds, bien sûr que non, mais la tentation de devenir une crevure était grande.
Vous seriez prêt à quoi pour être libre, pour rester libre, vous ?
Oh, je serais prêt à, à faire plein de trucs, parce que la liberté, ça n'a pas de prix. J'enfonce une porte ouverte, hein, pardon, mais c'est vrai que la liberté, c'est un truc, c'est vertigineux, quoi. Et d'être privé de la liberté, ce qui est un peu notre cas, par exemple, en ce moment, parce qu'à 21h, on n'aura plus cette liberté.
En France, dans certaines régions de France, oui.
Ouais. Mais d'être privé de liberté, c'est affreux, quoi. On peut pas imaginer une chose pire que ça, quoi. Être privé de liberté, privé d'amour, privé de... il y a des choses qui font peur.
Jean Tellet est tout triste.
Ce qu'il
raconte. Hein. Non. Je suis désolé, Jean.
Et c'est intelligent, mais c'est pas très gai.
Mais j'ai pas dit que tout ça allait arriver.
Ouais.
Écoute, en plus, ça appartient au passé, ça va.
Mais en tout cas, heureusement qu'il n'y avait pas de compte Twitter et tout à la Deuxième Guerre mondiale.
Oui. Ah, c'était
affreux. Oh, le bordel.
Ça aurait balancé.
Ouais.
Alors, pour te rendre un tout petit peu plus souriant. Pour moins plomber l'atmosphère, et vous allez prendre des notes parce que c'est vachement important.
Vite, c'est la fin de l'émission.
Par rapport à la période actuelle, dites-vous bien que quoi qu'on ait à vivre, un jour ou l'autre, c'est derrière nous.
C'est vrai.
C'est super gai, ça. C'est ce que t'as trouvé de mieux.
Je suis au taquet.
Il est au taquet du gai. C'est vrai que vous rêviez d'être Henri Matisse quand vous étiez petit, Patrice Lecomte.
Henri Matisse ou Albert Marquet, mais enfin, j'aurais adoré être peintre, bien sûr. Mais à condition de ne pas être un barbouilleur non plus. Mm. C'est pour ça que quand je dis moi j'aurais bien aimé être Henri Matisse, c'était pas le plus maladroit.
Ouais, c'est vrai. Bon, merci beaucoup Patrice Lecomte.
Merci à vous.
Merci. Deux passantes dans la nuit est paru aux éditions Grand Angle. Vous publiez aussi Faites la tête, 8 histoires drôles et décalées pour les enfants à partir de 10 ans. Voilà, de quoi faire avec Patrice Lecomte. Merci à vous. À très bientôt Patrice.
Merci Emmanuel.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Allez, les coups de gueule et les coups de cœur des libraires avec un coup de gueule en France, Sophie Todescato.
Oui, Emmanuel, on lit un peu partout ces derniers jours dans la presse que le secteur de la librairie serait le miraculé des industries culturelles, avec des chiffres de vente qui viendraient nous dire que nous sommes tirés d'affaires. Alors déjà, il y a des réalités très diverses derrière ces chiffres, sans doute. Il y a eu pour certaines librairies des jours fastes, mais pour d'autres indépendants, c'est encore vraiment très précaire. Par exemple, pour les librairies dont la fréquentation dépend d'une vie de quartier qui n'a pas repris. Par exemple, pour toutes celles qui comptent sur les festivals et les salons du livre qui, cet automne, ont tous été annulés. Et puis pour nous tous, au fond, il y a une telle absence de perspective, avec une une fréquentation de Noël dont on sait déjà qu'elle sera perturbée par les consignes de jauge dans les magasins. Bref, je crois qu'on peut dire qu'il est un peu prématuré de crier victoire.
Oui, il faut attendre la fin de l'année, effectivement, pour faire le bilan. Merci pour cet éclairage, Sophie. La Suisse avec un coup de cœur, Dominique Bressoux.
Oui, moi, c'est un coup de cœur jeunesse. L'attrape-malheur de Fabrice Adjadj. C'est le premier tome d'une trilogie qui nous raconte l'enfance et les aventures de Jacob Traum, un enfant doté d'un pouvoir très étrange. Alors ça, c'est dans le titre, hein. Et quand un philosophe écrit pour des ados, ça donne une histoire fantastique qui aborde les questions de l'amour filial, du malheur, de la différence et bien d'autres d'une manière particulièrement originale. On le lâche pas, même adulte. Et si on s'arrête un moment de lire, on peut se délecter des magnifiques illustrations de Tom Tirabosco.
Oui.
Et c'est pour les 9-13 ans, L'attrape-malheur, édition de La Joie de lire.
Vous avez tout dit, effectivement, Tom Tirabosco, qui est un grand illustrateur suisse. Merci beaucoup, Dominique. Au Canada, Josiane Nétourneau, un coup de gueule. Vous êtes énervée, Josiane.
Oui, je suis énervée parce qu'il y a environ un mois, il y a un roman très attendu qui était livré dans toutes les librairies du Québec. Une livraison qui, dans certains cas, s'est avérée vraiment problématique. Et quand un libraire ne reçoit pas, au moment attendu, ce qu'on appelle un meilleur vendeur, outre les pinceaux emmêlés des messagers, l'irritant, c'est aussi le manque de patience de certains clients. Alors, s'ils annulent pas carrément leur commande, ben, on sait qu'on va se retrouver avec des réservations non réclamées sur les bras. C'est une situation qu'on vit régulièrement dans une carrière de libraire et cet empressement qui fait en sorte que ce sont parfois les grandes surfaces où les clients impatients se précipitent qui en bénéficient, ben, ça me fâche vraiment.
Oui, on entend. Bon, restez calme. Merci Josiane. On termine avec un coup de cœur en Belgique et de la bande dessinée. Tiens, ça va plaire à Patrice Lecomte, Nathalie Clairin et à Jean Pelé.
Oui, Emmanuel. Oui. Retour de la douceur ici, Emmanuel, avec un énorme coup de cœur pour une bande dessinée. On connaissait l'auteur belge Franck P, oui, notamment pour son personnage de Broussailles, ainsi que pour la série intitulée Zo. Eh bien, il vient de sortir deux magnifiques BD. Je vous parle ici de celle qui fait revivre le petit personnage de Little Nemo au pays de Slumberland, né en 1905 sous le crayon de l'américain Winsor McCay. Alors, imaginez, Emmanuel, on prend un peu de Peter Pan, un peu d'Alice au pays des merveilles, la candeur de Bécassine, et on est transporté au pays des rêves. Vous voyez des animaux sauvages, des personnages de cirque. Toute la force est dans le dessin, vous l'aurez compris. C'est d'une beauté à couper le souffle, donc ne passez surtout pas à côté de Little Nemo de Franck P. Ça vient de sortir aux éditions Dupuis et c'est pour les jeunes de 1 an à au moins 100 ans.
De 1 an à 100 ans, oui, c'est pas mal. Vaste programme en tout cas. Merci beaucoup, merci Nathalie, merci à toutes les quatre d'être intervenues tout au long de cette émission. On termine avec une musique numéro 1 quelque part dans le monde. Voici le duo Mad Clip et Joséphine, titre phare en ce moment en Grèce. Τώρα θέλεις να είμαι μαζί σου και σπεθαίνω για το φιλί σου. Δεν με θέλουνε οι δικοί σου. Θυμίσου, θυμίσου. Τώρα θέλεις να είμαι μαζί σου και σπεθαίνω για το φιλί σου. Δεν με θέλουνε οι δικοί σου. Θυμίσου. Δεν με νοιάζει μα με θέλεις για τη φήμη. Μεταξύ μας ό,τι γίνει εδώ θα μείνει. Δεν με νοιάζει μα με θέλεις μόνο βράδυ. Το φιλί σου σκοτεινό σαν το σκοτάδι. Για μάτια, το κορμί σου λάμπει σελήνη. Και τα φράγκα θέλει να μείνει. Μη με λέξει όλα τα σβήνει, τα σβήνει. Τώρα μου λέει πως δεν έχει πια χρόνο. Κόκο Σενέ θέλει μόνο το πρόμο. Στέλνει μόνο από το εξήλι. Θέλει να με δει και όλο δεν μπορεί. Με φίλες στην αρχή, σαμπάνιες VIP. Θέλει τη κλειδί να είναι στη TV. Θέλει την κλειδί να είναι στη TV. Την έχω ρωτευτεί για αυτή το EP. Μόνο τρόπο για να μείνει. Αν το θέλει μόνο εκείνη. Έχει τον τόπο να με ρίξει. Την καρδιά μου να λυγίσει. Θέλω να σε πάω σπίτι. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Έπαμε στη Λαμπορκίνη. C'était Mad Clip et Joséphine, titre phare en ce moment en Grèce. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, Cyril Pascal avec Jenab Sangaré. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Estelle Gap en France. Jean-Marie Félix et Madeleine Teuchet en Suisse. René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique. Jacqueline Castonguet et Elsa Pépin au Canada. Thierry Dupin était à la prog musicale. La semaine prochaine, nous serons avec l'académicien Amin Mahalouf, entre autres. Je vous souhaite un très bon week-end et une bonne semaine. À bientôt. Salut.